c'est Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Il y a deux verbes ici qui parlent de l'unité dans la prière, accorder et assembler. Accorder comme des instruments de musique qu'il faut mettre au diapason pour que ce soit harmonieux. D'ailleurs, accorder, ça a donné en français symphonie. Soyons une symphonie dans la prière. Accordons-nous. On peut être réunis sans être unis. Et quand il est question ici de s'assembler en son nom, ce n'est pas de se réunir ou de venir à la réunion, mais de s'unir ensemble. Je le répète, on peut être réunis sans être unis. Et la condition pour obtenir ce que nous lui demandons, ce n'est pas que nous soyons réunis, mais unis. Assemblés dans ce sens de rassembler en lui. À partir de deux, donc c'est encourageant, cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'être nombreux dans une grande réunion de prière. À partir de deux, c'est suffisant. Gloire à Dieu. L'expression deux ou trois, ça veut dire deux et au-delà, tout simplement. Alors, mais par contre, les deux ou trois, les deux ou au-delà, doivent être unis. Et là, on a en proportion, quelque part, une vision du 100%. Qu'on soit deux ou que l'on soit 200, il faudrait être à 100% unis. Le nombre n'est pas très important, il ne peut être que de deux. Par contre, l'unité doit concerner tous ceux qui s'assemblent. Deux ou trois, deux et au-delà. Être assemblés. C'est très fort depuis plusieurs mois, comme jamais je ne réalise que quand nous nous rassemblons, Dieu regarde à nos cœurs et il voit si nous sommes unis ou non. Et nous pouvons prier avec ferveur, mais si nous sommes dans la désunion, il n'y aura pas d'exaucement, il n'y aura pas de bénédiction. De la même façon que si nous nous assemblons en son nom. Souvent, nous pensons que pour que Dieu nous exauce, il faut que nous soyons saints. Bien sûr que cela en fait partie. Mais il faut que nous nous aimions les uns les autres. Assemblés en son nom. Non pas réunis, unis en son nom. Alors, je suis au milieu d'eux. Ce verset semble indiquer que même la présence du Seigneur au milieu de nous dépendrait de notre unité. Ça fait réfléchir. Là où deux ou trois sont assemblés, réunis, unis, alors je suis là. Si nous sommes divisés, nous manquerons de sa présence. L'onction de l'Esprit repose sur une Église unie. Si nous sommes désunis, le Seigneur le voit. Ce que nous sommes en dehors des réunions, il le voit quand nous nous réunissons. Assemblés en son nom, c'est ce qui fait toute la différence. Nos rassemblements sont sacrés, parce que c'est en son nom. Nous ne sommes pas assemblés entre nous, mais en son nom. Ce lieu est saint parce que cette réunion, quel que soit le lieu, en réalité l'est au nom du Seigneur Jésus. Et combien il y a deux façons différentes de venir prier, venir à l'église avec les chrétiens ou venir au nom du Seigneur dans la maison de Dieu. Et si nous venons au nom du Seigneur nous assembler, nos dispositions seront meilleures. Amen. Comment êtes-vous venu ce soir? Avez-vous envie de venir? Avez-vous traîné la patte? Cela peut se comprendre, ça nous arrive parfois. Mais il nous manque ce rappel, c'est l'église du Seigneur. Nous nous réunissons pour qu'il soit au milieu de nous. Alléluia. Nous venons là où il est. Oui, ce texte nous donne ce simple rappel, cette simple pensée, pour que le Seigneur soit au milieu de nous et que nous soyons exaucés. Il faut que nous soyons venus assemblés ensemble. Deuxième pensée, tenir sa langue. Jacques chapitre 3, versets 5 à 12. Jacques chapitre 3, versets 5 à 12. Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. L'Écriture dit ici que l'homme ne peut pas dompter sa langue. Ça veut donc dire que c'est quelque chose de particulièrement difficile. Ne soyons pas étonnés comme le dit aussi ce chapitre, nous bronchons dans ce domaine tous de plusieurs manières. Que dire sur ce passage? Oh, quelque chose de simple, nous parlons trop. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est écrit, nous parlons trop. Parfois, nous parlons mal. Et ici, ce passage nous rappelle que notre langue peut distiller du venin. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'empoisonnement. Les poisons sont différents les uns des autres, ils agissent différemment, parfois avec du temps, parfois immédiatement, ils sont parfois mortels, d'autres fois rendent malades. Combien nous ne mesurons pas suffisamment parfois que ce que nous disons peut vraiment faire du tort, vraiment faire du tort. Hein, c'est d'un venin dans le sens que parfois quand on ne tient pas sa langue en bride, ce qu'on va dire va infecter peut-être une personne avec qui l'on parle. Et on n'est pas conscient suffisamment de cela, ça peut gêner un frère, une sœur même après, dans son rapport avec Dieu, dans son rapport avec d'autres. N'oublions pas que la langue peut être semblable à celle du serpent qui a un venin. Hein, le fait que ce soit parlé de venin, ça fait penser au serpent, et le serpent fait penser au diable. Et parfois, notre langue peut être enflammée, justement, de l'enfer. Comme le dit Jacques. Et enfin, les méfaits de la langue sont incompatibles avec la prière. Nous avons vu, on ne peut pas bénir Dieu et maudire les hommes en même temps. On ne peut pas faire ça. Ça fait réfléchir. Tout à l'heure, cela nous faisait du bien de prier les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme cela. Ça fait du bien de prier les uns pour les autres. Parce que on entend de belles choses dites sur les uns et les autres quand on prie. Bénis le frère un tel, bénis cette famille, etc., etc. C'est un beau moment. Un moment de pureté. Un moment où nos langues disent de belles choses les uns pour les autres à Dieu. Cela édifie nos âmes. Tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Alléluia. Alors, surtout, apprenons de plus en plus à, en dehors de la prière, ne pas faire le contraire les uns avec les autres. Parce qu'on quitte cette beauté. On quitte cette communion avec Dieu. La source ne peut pas être douce et amère. Et pourtant, il faut le reconnaître, en la présence de Dieu, que nous sommes capables parfois d'être doux. Et en dehors de sa présence, parfois amère. Oui, Jacques nous le rappelle, il ne faudrait pas qu'il y ait une différence entre nos prières et nos paroles, les uns envers les autres. Alors peut-être même un conseil à nous donner à tous. Si l'on a du mal avec quelqu'un, avec quelqu'une, c'est pas français, mais je dis comme cela, pourquoi pas arrêter de parler de lui ou d'elle, mais commencer à prier pour lui ou pour elle. C'est bizarre, mais quand on parle sur les gens, c'est pire en pire dans notre cœur. Mais quand on commence à prier pour les gens, il y a des choses qui changent dans nos sentiments. Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Vous savez, souvent, quand on parle, on va dans tous les sens, mais c'est tellement plus simple de prier les uns pour les autres. Amen. Troisième et dernière pensée, rassembler ses pensées. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Un Pierre, chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Rassembler ses pensées, ceindre les reins de notre entendement. J'ai trouvé cette note à ce sujet de ceindre les reins de notre entendement, je vous l'ai dit. On relevait les pans de la vie en les rassemblant avec une ceinture lorsqu'on voulait travailler ou se déplacer. Parce que à l'époque, les gens étaient obligés là-bas. Et c'était trop ample pour travailler. Donc, il repliait un peu le vêtement, avec une ceinture, il rassemblait, il saignait. C'est comme cela que ce mot évoque l'idée de rassembler le vêtement. C'est pour ça que la troisième pensée, je l'intitule « Rassembler ses pensées ». C'est une belle image, parce que autant parfois, pour travailler, il y a des vêtements amples, qui ne peuvent pas nous permettre de bien travailler, eh bien parfois dans la vie, il y a des pensées qui traînent, des pensées qui envahissent, des pensées trop amples, et des fois ça tourne en boucle. Et quand on est dans ces pensées-là, on ne peut plus faire grand-chose.
peut plus travailler, plus être utile, mais accaparé, on est embêté par le vêtement ample. Alors l'Écriture nous demande de rassembler nos pensées comme on peut ceindre ses reins avec cette djellaba. C'est pas facile. Limiter ses pensées, les contrôler, arrêter de s'inquiéter, arrêter de penser à quelque chose qui nous fait du mal. C'est pas du tout simple. Mais l'Écriture dit, saignez les reins de votre entendement. Je pense qu'on peut demander la grâce de Dieu. Et puis, essayer petit à petit d'apprendre ça. On est passionné, on est tous un peu passionnés. Et quand on vit quelque chose, quand on pense à quelque chose, ça devient trop ample, ça déborde, ça prend trop de place. Et il nous faut apprendre à être plus modéré, que Dieu nous donne sa sagesse. Nous en manquons tellement. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour que je puisse ne pas être sans contrôle, mais que je puisse contrôler mes pensées. Alléluia. Alors, une autre traduction rend de cette façon-là, c'est pourquoi. Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Oui, c'est cette idée de ce vêtement qui gêne, ces pensées qui nous distraient. Qui nous distraient de quoi? Elles nous distraient du Seigneur. Parce qu'il y a des pensées qui ne nous permettent même plus de prier. Même si on a le matin, un moment, on est là au calme, tout est réuni. On voudrait prier, mais l'ampleur, l'invasion des pensées nous empêche de prier. Voilà, tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de pensées. Parfois même, dans les réunions, pour entendre le message, la parole de Dieu, on est distrait, on peut l'être aussi, par toutes sortes de pensées. Quand on en a assez, quand on en a marre, quand on est au bout du rouleau, quand on est déçu, quand on ne croit plus, quand on continue à venir à l'église, mais on est ailleurs, on n'est plus là. On n'est plus là parce que il y a trop de choses qui nous envahissent. Mon frère, ma sœur, ceins les reins de ton entendement. Reprends-toi, ressaisis-toi. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Si simplement il y a cet effort de mettre une ceinture à tes pensées, mettre une garde à ta bouche quelque part, tout à l'heure c'était ça, mettre une garde à sa bouche et une ceinture à ses pensées. Dernière traduction sur ce verset, tenez votre intelligence en éveil. Tenez votre intelligence en éveil. Comment avoir, non pas des pensées éparses et débordantes, mais des pensées rassemblées et même avec une intelligence éveillée aux choses de Dieu, tenir son intelligence en éveil, comment? Il me semble, par la bonne lecture de la parole de Dieu, que de foi, lire la parole de Dieu a éclairé notre esprit. Nous n'étions pas bien, ou nous ne savions plus trop quoi, nous nous demandions, ou nous étions accablés dans notre tête. Nous sommes forcés au début, les premières phrases étaient difficiles, et puis on s'y est tenu, on a ceint nos pensées, on a lu la parole, et l'éveil est arrivé. Le cœur s'est fait du bien, l'intelligence est redevenu clair. Et oui, Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter. Je viens de lire, tu es avec moi. J'ai lu un verset hier, je crois. C'est lui qui ramènera la paix. Alléluia. Regardez, comme ça, quand on lit des passages, l'intelligence revient en éveil. C'est lui qui ramènera la paix. Alléluia. Et que d'autres paroles? C'est hier. mais demain il y en aura une autre, après-demain encore, à chaque fois que, si, et quel bienfait de lire régulièrement la parole de Dieu pour tenir notre intelligence en éveil. Frères et sœurs, il faut lire tous les jours la parole de Dieu, pas pour accomplir un devoir religieux, mais pour que ça aille mieux dans la tête. Amen. Pour que ce soit plus clair, éveillé, pour que la volonté de Dieu se révèle simplement par l'Écriture. Amen. Voilà ces trois pensées, je les rappelle. L'unité dans la prière. Tenir sa langue. Rassembler ses pensées. Que Dieu bénisse sa parole pour qu'il l'accomplisse dans nous. Amen.